Les Racines du Ciel, une émission de Lily Anvar, préparée par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Yann Frécy. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Gouji, qui nous reçoit dans son atelier à Paris, rue Le Pic, en face de l'ancien atelier de Van Gogh, un endroit dont on a l'impression qu'il n'a pas bougé depuis des siècles, un endroit tout à fait extraordinaire, que nous allons peut-être décrire plus longuement avec Gouji lui-même. Nous sommes donc chez ce sculpteur, orfèvre, artiste, je ne sais pas comment dire.
Créateur,
voilà, qui s'appelle Gouji, pour un nouveau volet de la série Grand Témoin. Sous vos mains, de la matière brute jaillissent des formes à la fois immémoriales et personnelles. On croirait vos bijoux sortis d'une fouille archéologique et vos objets liturgiques sculptés au temps des bâtisseurs de cathédrales. Et pourtant, vous êtes là, bien réel, bien actuel, dans ce lieu qui a vu naître des œuvres d'art d'une beauté exceptionnelle. Œuvres qui sont pour vous autant de prières, d'offrandes, qui célèbrent la beauté du Créateur et la donnent à contempler. Car, et c'est vous qui l'écrivez, pour vous, l'art n'a pas pour finalité soi-même. Il est le moyen de faire parvenir le spectateur à un état tout autre, la prière, la méditation ou l'extase. Alors, Gouji, quel nom donnez-vous à l'art que vous exercez et comment le définiriez-vous ?
Bon, comme je vous ai dit, je me considère comme un créateur. Tout vient de l'inspiration, de rêves, souvent de rêves. Donc je rêve la nuit, des animaux fantastiques, des personnages qui viennent de loin et loin dans le temps. Et le matin, j'arrive dans l'atelier et je commence à matérialiser mon œuvre. Et vous voyez les un peu de finalité de mon rêve. Dans cet atelier, quand vous m'avez parlé, ça fait 42 ans que je suis là, depuis mon arrivée dans l'Union soviétique, parce que je suis né en Géorgie soviétique, il y a 74 ans, sur bord de mer Noire, dans une ville portuaire. Ça s'appelle Batoumi. Et mon père était médecin. Ma mère était professeure de sciences naturelles. Bon, donc j'ai vécu comme ça. Heureusement, mes parents m'ont transmis de l'amour, d'intérêt pour la littérature, parce que mon père était assez âgé. Et il a eu une formation de médecin déjà sous l'Ancien Régime. Donc il a conservé une centaine de livres, c'est tout ce que nous possédons. On n'a pas eu d'autres biens à la maison. Et ça m'a beaucoup, ça m'a donné envie de savoir plus ensuite. Mais malheureusement, pour moi, cet régime qu'on a vécu, c'était véritable enfer. Tout était tellement médiocre que je souffrais beaucoup. Et j'ai pensé de trouver les moyens un jour de m'échapper de cette plomb qui pesait sur moi.
Surtout que vous êtes né, donc vous venez de le dire, en Géorgie. Vous êtes né en 1941, en pleine guerre, au moment même de la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie, enfin à l'Union soviétique, pardon. Et donc, c'est vrai que votre enfance se passe dans cette après-guerre dans laquelle l'Union soviétique est quand même dirigée par un Géorgien, précisément. Et quel Géorgien, n'est-ce pas, Staline ? Et en effet, donc vous êtes à la fois un provincial, donc, mais en même temps, vous faites partie de ce grand marasme matérialiste et en même temps d'appauvrissement intellectuel et aussi matériel qu'a amené en fait ce régime de l'Union soviétique.
Je considère le pouvoir soviétique, c'est une plus grande escroquerie dans l'histoire de l'humanité. Ils ont appauvri les gens, ils ont rendu malheureux, ils ont tué des millions de personnes. Pour quel idéal ? Donc finalement, comme j'ai toujours tenu les crayons, vous savez, à cette époque de l'année 50, avoir un simple crayon, c'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'on ne trouvait pas. Il y a eu des pénuries de tout. Et entre autres, trouver un crayon, c'était. Donc c'était un objet très précieux. Donc j'ai gardé jusqu'au dernier bout. Et donc j'ai dessiné toujours. C'est mon rêve. Était entré dans l'Académie des Beaux-Arts, ça s'appelait, ou l'École des Beaux-Arts, dans la capitale de la Géorgie, à Tbilissi. Et après mes études, j'ai réussi à passer 2 années de suite le concours pour l'entrée, parce que l'entrée était très difficile. Et donc, j'ai commencé les études de... Heureusement, j'ai eu quelques vieux professeurs qui ont vécu de temps, entre autres Vassili Choukhaev, qui est très connu à Paris dans l'année 20, l'année 30, qu'il était encore vivant. Mmh. Voilà, il enseignait après 20 ans de goulag passé, si vous voulez, parce qu'il est entré dans l'Union soviétique dans l'année 36-37, et il était emprisonné, accusé d'espionnage, et seulement il était libéré en 1956. Voilà, donc quand même il était très connu, et il était invité ensuite, c'était l'époque de dégel, disons, comme professeur de chez Louis-Dubois, beaucoup. Et première fois, j'ai entendu par lui les noms de Picasso, Matisse, Modigliani, parce que lui, il connaissait tout le monde, dans l'époque de Montparnasse. Mais trouver un livre sur Picasso, par exemple, pourtant il était communiste et bien considéré Union soviétique.
C'était, normalement.
Oui, c'était impossible parce que c'était interdit. Tout ce qui était, disons, pas ligne de réalisme socialiste, était interdit. Donc je souffrais beaucoup. Et voyez-vous, mon grand-père maternel est venu à Paris en 1900. Il était négociant. Et il a apporté un appareil très étrange qui s'appelle stéréoscope. Stéréoscope, c'est un appareil. On peut visionner les photos. Ben, il y a double photo. Et ça donne sa session de volume. Donc, il nous a apporté ça de Paris. Et une centaine d'images. C'était un peu tour de monde. Il y avait beaucoup d'images des cathédrales de France. Et ça m'a fasciné beaucoup. J'ai passé des heures et des heures. Vous savez, il y a eu peut-être 60 ou 70 images, pas plus. Mais toute mon enfance, c'était ça. Regardez.
Oui, parce que si j'ai bien compris, évidemment, le culte religieux était interdit en Union soviétique, mais y compris de visiter les lieux de culte. Et bon, ils en ont sans doute détruit un certain nombre, mais il y en a d'autres qui n'ont pas détruit, mais simplement, c'était interdit de les visiter. Mais vous avez quand même fait l'école buissonnière un jour, et vous avez tenu à visiter ces lieux.
Voilà, en fait, ce qui se passait, de l'année 20 à l'année 30, après la Révolution, était une campagne anticléricale féroce. Beaucoup de prêtres, milliers de prêtres ont été exécutés. L'église était fermée, transformée en dépôt d'entreprise. Mais il y a eu grand tournant en 1943, après Stalingrad. Staline a décidé d'assouplir cette campagne anticléricale. Il a nommé lui-même patriarche, parce que le patriarche sortait de Goulag, figurez-vous, parce qu'il était l'évêque à l'époque de son emprisonnement. Et donc, il était nommé patriarche de toute la Russie. Et à ce moment-là, il y a eu une ouverture de quelques églises dans le pays, notamment dans grandes villes. Et de ville où je suis né, c'est pas grand, mais quand même une ville importante portuaire. Et il y a une église, ancienne église grecque, parce qu'il y a eu beaucoup de colonies grecques depuis l'Antiquité. Donc ils vivaient les Grecs, mais hélas, ils ont été déportés en 1948, les Grecs de la Géorgie. Et donc, c'était le moment où ma mère nous a baptisés, moi et mon frère, en 1943, juste à l'ouverture.
Donc, ce n'était pas clandestin. Donc, elle vous a baptisé officiellement.
C'était permis, mais comme, si vous voulez, Staline, pour les raisons pragmatiques, parce que c'était la guerre, pour lancer l'appel patriotique vers le peuple, il a ouvert les églises. Il a demandé la générosité des croyants et les gens donnaient le dernier. Tout ce qu'il possédait pour la guerre. Voilà. Et donc, mon père, à cette époque, était mobilisé dans l'armée. Il était chef d'hôpital militaire. Et ma mère, en cachette, parce que mon père, il ne savait pas, parce que comme il a une certaine responsabilité, ça pouvait être dangereux pour lui, nous a amenés dans la capitale de la Géorgie, à Tbilissi. Il nous a baptisés. Et mon père... Alors, c'est ça plus tard. Et voilà, c'était le baptême et c'est tout. Il n'y a pas eu aucun catéchisme, même on n'allait pas en église, rien du tout. Parce que je le savais simplement que j'ai été baptisé. Et j'ai une petite croix en aluminium. Mmh. Voilà, de fabrication locale.
Mais pourquoi votre mère tenait à ce que vous soyez baptisé? Elle-même était religieuse ou elle avait des penchants?
Elle n'était pas religieuse, mais elle est née quand même. Dans une famille croyante, orthodoxe, comme c'était très pieux, mon grand-père. Mmh. Voilà. Donc, quand même, elle a dit, ça serait pas mal si je peux baptiser mes enfants, c'est tout. C'est le raisonnement. C'est pas des convictions profondes, si vous voulez.
Parce que donc, ce qu'elle vous a transmis, au fond, c'est pas la religion dans le sens officiel du terme, mais si j'ai bien compris, comme elle était professeure de sciences naturelles et qu'elle jouait de la musique, elle vous a transmis quand même une certaine idée de la vie.
Absolument.
Et une certaine idée de la beauté.
Et je dois beaucoup à ma mère, parce qu'elle a eu multiples talents, elle dessinait très bien, elle jouait le piano, elle préparait tout son cours. On était en fait quatre dans la famille. On avait un seul table. Et tous les soirs, on installait de chaque coin des tables. Mon père faisait les lectures, ma mère préparait les cours, et moi, mon frère aussi, travaillait pour notre devoir scolaire. Voilà, c'était notre vie. Et plus tard, quand je suis devenu étudiant, évidemment, j'ai souffré beaucoup, il manquait d'informations. Donc je voulais savoir plus. Il a une bibliothèque dans cette Académie des Beaux-Arts, mais on ne peut pas dire que c'était une bibliothèque riche. Voilà. On a eu certaines connaissances de la peinture de Renaissance italienne, antiquité grecque, égyptien. Sinon, ce qui est dominé, c'était l'art russe officiel, soviétique officiel, et l'art russe, parce que c'était l'Empire russe. Et donc l'Empire, bien entendu, essayait de russifier tout le peuple qui composait cet empire. Donc on a vécu, on était baigné, si je peux dire. La seule chose que pouvait mon père acheter, c'était des albums avec la production des peintres du 19e siècle. Les Russes, très bien, mais c'était limité.
Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous ne vous êtes pas finalement tourné vers la peinture, mais vers les arts, des arts appliqués, parce que vous ne vouliez pas devenir un suppôt de Satan, en tout cas, un représentant de l'art officiel soviétique.
Comme c'était un régime totalitaire, donc tout était mobilisé et dans la main de l'État. Donc l'État était commanditeur. Un sculpteur, il était obligé de créer des sculptures en gloire des partis communistes et de faire les portraits des dirigeants des partis. Le poète, de composer les vers pour la gloire des régimes, des compositeurs, etc. Donc c'est ça. Évidemment, c'est pour moi, c'est déjà, j'ai tellement détesté cette ambiance et ce régime que c'était inconcevable de servir de ce régime. J'ai essayé d'un peu trouver les moyens de sortir. Je me suis orienté vers l'art, c'est un grand mot, vers l'art appliqué. À ce moment-là, il y a des événements assez dramatiques. Deux de mes amis proches sont été arrêtés pour la tentative de traverser les frontières clandestinement, par les nages, figurez-vous, dans la même ville où je suis né. Et donc, ils voulaient faire le procès assez spectaculaire, exemplaire. Et donc, mon père a dit, immédiatement, tu pars, tu disparaisses. Voilà. Et j'ai pris une petite valise que je possédais et je suis parti. J'ai pris le train pour Moscou. Et j'ai été un clandestin, figurez-vous. Un clandestin qui est né dans le même pays, mais je vivais clandestinement. Parce que d'abord, je n'ai pas eu le droit de vivre comme tous les soviétiques. Je ne pouvais pas déplacer. Donc, déplacement, migration des populations était strictement contrôlé par l'État. Pour les raisons évidentes, parce que c'est plus facile à surveiller des gens. Et surtout, c'est pour stopper cet déplacement de population rurale vers la ville. Et surtout à Moscou. Exception était des spécialistes dans le domaine militaire, etc. Et évidemment, ils ont été sollicités. au bout de certain temps, j'ai essayé de régulariser ma situation. Bien entendu, quand ce pays était complètement corrompu, c'était une véritable institution, le mensonge et la corruption. Donc, moi-même, j'ai été corrompu, et comme tout le monde. Donc, j'ai essayé avec tous les moyens, des combines, de trouver cette fameuse, ça s'appelle Prapiska. Prapiska, ça veut dire domiciliation obligatoire. Parce que dans le passeport, chaque citoyen a eu ce tampon. Donc, chaque citoyen était obligé de vivre dans cette domiciliation. Finalement, j'ai obtenu ça. J'ai commencé à travailler comme designer, sans intérêt, sans présenter aucun intérêt purement artistique. On faisait des modèles pour l'industrie. Différents modèles, même pour les jeux d'enfants. J'ai travaillé pour les monnaies de Moscou. Et voilà, la vie n'était pas drôle. Mais quand même, comme c'est une grande ville, il y a eu des affiches intéressantes, des théâtres, des musiciens qui venaient. Par exemple, j'ai vu le concert d'Arthur Rubinstein, figurez-vous, voilà, un pianiste énorme. Et Guy Lels, tous les grands de Oistrach à l'époque, et Richter. Voilà, pour moi, c'est le seul plaisir, c'était de participer à des concerts dans la grande salle de conservatoire de Moscou.
Oui, alors, vous décrivez effectivement une vie de laquelle on a l'impression que toute âme est chassée, toute aspiration religieuse, spirituelle, au divin, à la vérité, puisque vous dites même on finit par soi-même devenir corrompu et menteur d'une certaine façon, parce que c'est la condition de la survie. Voilà, c'est une façon finalement de déshumaniser les gens pour pouvoir mieux les contrôler. Comment se fait-il que dans ce contexte, il vous soit venu l'idée, déjà, que finalement vous vouliez faire un art qui soit consacré à Dieu? D'abord, où vous en étiez avec Dieu à cette époque-là? Quelle était votre vie spirituelle qui vous a donné cette idée, au fond, d'entrer dans un art sacré dans lequel vous ne pouviez en aucun cas entrer, techniquement parlant, tant que vous étiez un citoyen soviétique?
La foi m'a revenu par l'image, figurez-vous. Et quelques années plus tard, je suis devenu un grand fanatique d'un écrivain qui a un style extraordinaire, c'est Émile Malle, qui a écrit à l'époque, c'était avant la guerre, que notre cathédrale, c'est la Bible des pauvres. C'est-à-dire, déjà, dans le tampon, vous voyez des sujets, les gens ne savaient pas ni lire ni écrire, s'il apprenait comme ça, par les vitraux, par les fresques, par les sculptures. Et pour moi, c'était la même chose. Évidemment, on ne possédait pas l'évangile à la maison. Mais une fois, en allant dans le conservatoire de musique, c'est ma mère qui m'a inscrit, parce que moi, je n'étais pas tellement, à cette époque, d'amateur de musique, ça m'ennuyait beaucoup. Et c'était une seule église qui fonctionnait, juste à côté de ce conservatoire de musique. Et j'ai osé une fois entrer dans cette église, parce que ce qui me séduisait, parce qu'il fallait traverser les cours, je voyais des bougies. Et de temps en temps, les chants, j'écoutais. Finalement, je savais que c'était mal vu. Mais j'ai quand même traversé cette cour, je suis entré, et première image que j'ai vue sur les murs, une peinture, un homme dans une robe longue qui marchait sur les vagues. Qu'est-ce que c'est? C'est complètement surréaliste, cette image. Comment ça se fait qu'il ne tombe pas? Il marche sur les surfaces de ces vagues. Enfin, plus tard, j'ai appris qui était cet homme, que c'était l'Arc Tibériade, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ça m'a attiré beaucoup. Et j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que c'est, pourquoi. Plus tard, j'ai une voisine, une vieille dame, qui elle était catholique géorgienne, m'a prêté l'évangile, mais c'était au latin. Voilà. Mais c'était bien illustré. Mon latin, je ne pouvais pas lire, Parce qu'à l'époque, vous savez, toutes les liturgies étaient en latin.
Bien sûr.
Pas la langue locale. Et petit à petit, j'ai rencontré le prêtre de cette église, parce qu'il habitait aux proximités de notre maison, parce que je le voyais tous les jours, il passait. Et j'ai approché une fois, on a discuté, et donc nous sommes devenus des amis. Il était jeune, et donc j'ai à ce moment-là commencé à lire, pas seulement l'Évangile, le Père des Églises, et évidemment, aucune connaissance de la philosophie en général, rien.
France Culture, Les Racines du Ciel, Lélie Onvar.
Et à Moscou, j'ai rencontré un compositeur et claveciniste qui s'appelait Volkonsky. C'était des vieilles familles russes. Il dirigeait seul ensemble vocal et instrumental de toute l'Union soviétique, qu'il exécutait des morceaux de l'époque de Renaissance. Et donc, il a réussi avec tous les moyens de sortir. Il a créé cet ensemble. Je ne sais pas comment, c'est lui qui m'a cherché et il m'a demandé de créer le décor pour ce spectacle. Le décor, c'était 5 chandeliers au fer forgé sur la scène. Voilà, donc tous les concerts passaient au fond de ces 5 chandeliers. Et également, j'ai participé pour création des robes pour les chanteuses, c'est-à-dire j'ai fait des bijoux et aussi quelques éléments, comme dans l'époque de la Renaissance, pour décorer les robes. Mais ce n'est pas été ni perles précieuses, ni métaux précieux, c'était des cuirs de récupération. Sur le métal qu'on peut trouver encore, il fallait avoir les relations. Voilà. Et cet ensemble a eu un succès extraordinaire, parce qu'il y a eu des amateurs dans toutes les villes. Les gens faisaient des milliers de kilomètres pour venir d'écouter ces concerts. Et aussi, comme il était en français pour les Français, parce qu'il était en France, il connaissait une jeune femme qui travaillait dans l'ambassade de France à Moscou. Et bah, il m'a présenté cette jeune femme dans une ghetto. On appelait ça ghetto parce que c'était une espèce de HLM entouré de murs de béton où il habitait des corps diplomatiques et de tous les représentants des étrangers. Il était strictement surveillé par les ministres. Et c'est le correspondant du journal Le Monde qui nous a fait rentrer dans les cours de ce bâtiment. Et j'ai été couché. Il m'a caché avec son manteau. Et comme ça, j'ai fait connaissance de ma future femme. Bon, on a passé pour tous les combines, bien entendu. Et on a réussi de se marier.
Oui, vous avez même réussi finalement, après bien des difficultés, à venir vivre en France. Et vous dites que vous aviez 33 ans, je crois. Et
quand je suis arrivé à Paris.
Voilà, et quand vous arrivez à Paris, vous appelez ça votre seconde naissance.
Oh, de quelque sorte, enfin, c'est une métaphore, n'est-ce pas?
Bien
entendu. Et donc, même après le mariage, on a attendu 5 ans. 5 ans parce que c'était d'angoisse. Je ne savais pas s'ils me donneraient le visa pour sortir, ou au contraire, ils m'envoyaient en Sibérie. Il y a eu deux possibilités. Et entre-temps, mon beau-père, André Barsac, qui dirigeait le théâtre des ateliers à Montmartre, commençait à intervenir près des autorités françaises pour régler ces problèmes.
Au fond, vous avez eu, par votre naissance, vous êtes né dans des conditions historiques qui étaient celles qu'on a évoquées. Et puis, étrangement, il y a eu dans votre vie, comme ça, des rencontres, des situations, des circonstances qui ont fait que... comme si, voilà, le hasard était parfaitement bien huilé et bien fait, et qui vous fait peut-être penser que le hasard n'existe pas, au fond, parce que finalement, toute votre vie a été dirigée par des rencontres vers ce qui va devenir votre œuvre.
Je pose toujours cette question, que c'était vraiment la providence. Je ne sais pas comment expliquer ça. Justement, cette rencontre, cette circonstance, et voilà, finalement, on est parti. Hélas, j'ai laissé ma mère, qui était encore vivante. Et on arrive avec mon fils Stéphane, qui a eu 2 ans. On arrive, ma belle-mère nous a bien accueillis dans cet appartement. Et le lendemain, je suis sorti et j'ai monté vers le Sacré-Cœur. Et j'étais émerveillé. Voir cette place, la vue sur le Paris... Mais j'étais tellement émerveillé que depuis, je ne sortais pas. Et ça a duré 2 mois. Donc c'était telle angoisse avant le départ que c'était pour moi une choc, si vous voulez. Et ma femme voulait me montrer Paris. Elle m'a dit, tu ne peux pas même voir les Sainte-Chapelle. Je dis, non, je ne sais pas. Je ne connais pas Sainte-Chapelle, je ne peux pas. Et pourtant, je connaissais. Par toutes ces photos qui apportait mon grand-père. Parce que j'étais déprimé quelque part, je ne pouvais pas. Au bout de 2 mois, quand même, le temps a changé. Et j'ai commencé à sortir. Et ma femme m'a dit, écoute, je sais que ce que tu voulais voir, on va faire le Tour de France. Et on a fait véritable Tour de France en visitant toutes les grandes cathédrales. Que j'étais mémorisé dans ma tête. Et notamment, cette photo que je voyais, à l'époque ça s'appelait Basilique, devenue maintenant cathédrale, Basilique de Saint-Denis. Comparé dans l'échelle, une chaise avec le neuf, c'était colossal, c'était volume. Et je voulais voir aux réalités. Comment c'était construit? Et je m'intéressais beaucoup à l'architecture à ce moment-là, et on a fait vraiment tous les grands cathédrales, tout.
Et est-ce qu'à cette époque, vous n'aviez pas encore commencé à votre travail qu'on appellerait, pour faire vite, vraiment d'art sacré? Oui. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez cette idée que vous pouviez participer à ça, que vous pouviez apporter votre contribution à cette... je dirais cette gloire des cathédrales françaises à laquelle vous avez participé plus tard, et on va y venir avant la fin de cette émission, Gucci.
J'ai dit à ma femme, en partant, qu'on était dans l'avion. J'ai dit, je dois faire quelque chose pour ma liberté. Et je ne savais pas de tout ce qui m'attendait, d'ailleurs. J'ai ignoré complètement, mais je le savais que je quitterais ce pays. Je dois faire quelque chose en gloire de Dieu. Je ne sais pas quoi, mais ça, c'est dans ma tête. Et après cette Tour de France, évidemment, j'étais tellement... Je me souviens, cette abbaye du Toronnais, c'était telle merveille. La cathédrale d'Amiens, des Beauvais, des Reims, voyez-vous. Rouen, Chartres, Et je pouvais pas même penser que quelques années plus tard, je pouvais avoir ce privilège de travailler pour Cathédrale de Chartres ou Cathédrale de Notre-Dame. C'est revenu après.
Oui, alors, puisque vous en parlez, parlons-en de Chartres. Cela dit, quand je vous écoute ou quand je lis les choses qui ont été écrites sur vous et ce que vous dites de votre vie, je me dis que très souvent, moi-même, je n'ai pas grandi en fait en France, et très souvent je me fais cette réflexion que les gens qui ont grandi en France, souvent, ils ne savent pas quel trésor recèle ce pays. Et que d'une certaine façon, il faut que nous soyons étrangers, il faut que nous en ayons été privés pour l'apprécier vraiment.
Absolument, je suis d'accord avec vous. Mais écoutez, en arrivant justement, on a trouvé cet atelier, cette porte n'existait pas, 10 mètres carrés, en location, parce qu'il fallait faire quelque chose. Je ne savais pas exactement quoi. Si, ma femme a suggéré de commencer par création des bijoux, parce que j'ai eu un seul héritage que ma mère transmis avec beaucoup de précautions, c'est 6 cuillères en argent. 6 cuillères de soupe en argent qui venaient de mon grand-père. Et j'ai réussi à sortir ces 6 cuillères par les palices diplomatiques. Les amis français nous ont aidés. Et j'ai retrouvé cette 6 cuillères à Paris. J'ai commencé à transformer. Mais évidemment, je n'ai pas eu d'outils, de matières, etc. Moi-même, j'ai commencé à bricoler. Et c'était les premières, si vous voulez, créations. Et j'ai commencé, voilà, ici, dans ces lieux. Et j'ai eu deux voisins, à gauche et à droite. Il y a une américaine, Dieu seul sait ce qu'elle faisait, mais elle venait tous les jours. Une jeune américaine. Et à côté, il y a un céramiste, un vieux assez âgé, un républicain qui a combattu Franco pendant la guerre des civils. Il était réfugié politique. Comme il a appris que je venais de l'Union soviétique, il était tellement joyeux, il a dit « Ah, j'aime beaucoup l'armée rouge, et l'armée rouge, et l'armée rouge », parce que c'est par sa conviction. Il allait même souvent, comme à l'armée rouge, cœur de l'armée rouge, donner les concerts à Paris. Donc, il était, comme on voulait, je ne pouvais pas discuter avec lui, parce que c'était un monsieur âgé, et c'est difficile à décevoir. Et ma voisine américaine présente un jour son père qui venait première fois en Europe. Et elle expliquait que voilà, moi, je viens de l'Union soviétique. Et cet monsieur me regarde avec grand sourire, il m'a serré la main très très fort, il m'a dit « I am Marxist
». Vous étiez entouré.
Voyons, c'est mal tombé. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Donc, voilà. Donc, c'était l'ambiance, si vous voulez. Bon, depuis, ça a changé beaucoup. Et comme j'ai resté ici, il faut signaler que j'ai écouté des radios. C'est la seule chose que comme ça, j'ai appris à parler français. J'écoutais France Culture, notamment, France Musique. Et même plus tard, directeur, ex-directeur de France Culture, Yves Jégu, qui est devenu notre grand ami, qui m'a beaucoup défendu. Et on continue toujours, parce que malheureusement il est décédé, mais avec le verbe de Yves Jégu, on se voit de temps en temps. Ils m'ont soutenu. Voilà, j'ai commencé la création des bijoux. Quelqu'un nous a dit qu'il y a un salon professionnel. On peut louer le stand, un petit stand, je ne sais pas, 4 mètres carrés, et présenter ses productions, propres productions.
Voilà, mais il faut bien dire que quand vous faites, même quand vous faites un bijou, même à cette époque-là, dès le début, évidemment votre femme vous dit, bon, l'art sacré, pour l'instant, nous vivons dans une autre forme de matérialisme en France qui exclut tout à fait l'art sacré, mais même vos bijoux, vous avez toujours voulu tenir à ce que ce soit des pièces uniques, ils sont profondément inspirés par toute votre culture de l'Antiquité, et voilà, c'est quand même un travail. C'est pas juste un ornement, c'est vraiment un objet qui dit quelque chose, qui symbolise quelque chose. Je ne vous.
Pour moi, c'est un travail de recherche, parce que à l'époque, ils ont ouvert les centres de Pompidou, Internet n'existait pas, et c'était extraordinaire parce que je pouvais aller dans les bibliothèques qui étaient ouvertes jusqu'aux 10 heures du soir, et moi-même chercher dans l'étalage les livres que ça m'intéressait. Voilà. Et j'ai passé tous les soirs dans cette...
Alors, comme le temps avance un peu, on va peut-être traverser un peu les années et passer de donc et vous allez peut-être nous expliquer comment de ce travail finalement d'orfèvrerie, de bijoux, qui était quand même, encore une fois, je le dis, des pièces uniques, donc c'était vraiment un travail d'artiste. Comment vous en êtes venu et par le truchement de qui, je crois qu'à nouveau c'est une très belle rencontre que vous avez faite, vous en êtes venu à créer des objets liturgiques, des objets à caractère sacré et carrément ensuite participer à la rénovation de Chartres dont on parlait tout à l'heure.
À cette époque, j'ai rencontré, comme je vous ai dit, c'est très important la rencontre avec les gens. François Maté, conservateur en chef des musées décoratifs, il m'a beaucoup soutenu. Il connaissait que de mes créations de bijoux. Et je lui ai dit que moi, je souhaiterais de créer quelques objets, parce que l'orfèvrerie, c'est l'art d'excellence pour créer d'objets liturgiques, justement, de vases sacrés. Ah, il m'a dit, cher ami, il faut mieux de vous faire des coupes pour les compétitions des sportives. Bah, c'était, si vous voulez, un peu, il m'a dit ça en riant, mais pour dire que vous ne pouvez pas vivre avec ça. Mais en même temps, il m'a encouragé. Et c'est lui qui était promoteur de cette idée de me demander de création de trois objets. Chandelier Pascal, une cuve baptismale et une aiguière qui actuellement se trouve dans le trésor de la cathédrale de Notre-Dame. Voilà, c'était la première réalisation.
Et est-ce que c'est différent comme travail? Est-ce que quand vous faites un calice ou un baptistère, est-ce que vous êtes habité par quelque chose qui est autre sur le plan, je veux dire, du créateur, hein, sur le plan spirituel?
Inconsciemment. Moi, je ne peux pas dire. Voyez-vous, évidemment, il y a beaucoup de réflexion, méditation, parce qu'il faut bien étudier. Surtout quand on fait pour les monuments importants, il faut pas se tromper. Il faut faire quelque chose d'harmonieux avec les lieux, les cohérents. Donc ça demande beaucoup d'études. Voilà. Donc combien de fois, Dieu le sait, j'ai déplacé à Chartres dans toutes les cathédrales avant que je commence à travailler. Donc voilà. Et en même temps, je faisais des objets, disons, profanes. Et si vous voulez, avec main gauche, je faisais profane, et à main droite, je faisais l'œuvre liturgique. Ça me permettait aussi d'avoir l'indépendance financière. Parce qu'uniquement avec l'art liturgique, je ne pouvais pas aller loin. Voilà. Et ensuite, j'ai été sollicité, parce qu'à l'époque, archiprêtre des cathédrales de Notre-Dame était Monseigneur Perrier, qui est devenu l'évêque de Chartres. Et dès qu'il a eu cette nomination, il m'a appelé pour dire, voilà, nous avons l'hôtel en contreplaqué.
À Chartres, en contreplaqué,
oui,
mon Dieu.
C'était contreplaqué après les réformes, parce qu'ils ont fait les déplacements de l'hôtel, enfin, les rites liturgiques changés, et c'était l'hôtel provisoire. Et depuis 1965, après la consigne Vatican II, il m'a dit, voilà, il faut que ça change, et je vous confie l'aménagement de tout l'espace liturgique, c'est-à-dire l'autel, l'ambon, tout ce qui sert à la liturgie. L'autel, l'ambon, le pupitre, le chandelier, les croix de l'autel, des calices, évidemment, de l'encensoir, la navette et plusieurs plateaux. Et j'ai commencé comme ça. Et j'ai eu encore une chance parce que, vous savez, je me suis dit, il faut faire ça en matériaux nobles. J'imaginais mal exécuter ça en inox, en aluminium ou en cuivre. Mais comment faire? Où peut trouver cette matière première, comme argent par exemple? Et je demandais, j'ai osé de demander, être sponsor de mon fournisseur où j'ai acheté le métal. J'ai dit, voilà, il y a cette opportunité extraordinaire. Est-ce que vous pouvez me fournir? Et finalement, ils m'ont fourni le métal. Donc ça aussi, il y a une confiance. Il nous a donné 130 kilos l'argent. Sinon, ça ne pouvait pas être exécuté parce qu'il n'y en a pas eu de budget pour ça.
Donc. Oui, le chêne aussi, je crois. Le chêne vous a été donné par une amie. Enfin bref, ça a été une entreprise qui a ressemblé beaucoup à ce qui se passait quand on construisait les cathédrales. C'est-à-dire que les gens en donnaient. Au fond, les cathédrales ont été construites sur les dons des mécènes et même des gens qui donnaient jusqu'aux petites pièces qu'ils avaient pour que ce soit construit. Sur l'enthousiasme et la ferveur, en réalité.
Tout à fait. Donc c'était vraiment, même l'évêque n'attendait pas ça. Parce que moi-même, j'ai trouvé plusieurs mécènes qui ont participé d'une manière ou l'autre de la réalisation. Et après, ça a continué. Et comme c'était les premières réalisations importantes, sans précédent, je vous dis sans précédent, pourquoi ? Parce que jamais une seule personne, avec ses propres mains, exécutait et mobilier et objets liturgiques et des vases sacrés, sans précédent. Voilà. Donc, et évidemment, quelques évêques qui sont passés à l'évêque, à Chartres, et ils sont intéressés, et ensuite j'ai été sollicité par plusieurs évêques, notamment ensuite c'était Luçon, ensuite c'était Cambrai, ensuite c'était l'église abbatiale de Tournus, une réalisation très importante parce que c'est un monument incontournable dans l'histoire de l'art roman. Voilà.
Donc, et jusqu'au pape lui-même, jusqu'au pape Jean-Paul II lui-même. Voilà. Qui vous a demandé, en fait, un reliquaire de Padre Pio, si je ne...
Ce qui est extraordinaire, c'est la rencontre, parce que, comme pape est venu pour les JMJ, à Paris, c'est la cathédrale de Notre-Dame qui a prêté ces objets pour la liturgie. Et entre autres, ils ont prêté les cuves baptismales, parce qu'il a fait la cérémonie de baptême des adultes. Voilà. Et cette photo qui est parue le lendemain, pratiquement de couverture de tous les journaux, on voyait des Saint-Père avec cuve baptismale et un jeune Français qui a trouvé la foi. Une semaine après, j'ai reçu une lettre ici, expéditeur, secrétaire d'État.
Du Vatican.
Voilà, donc j'ai jamais eu une lettre de cette provenance. On ouvre, et c'est le substitut du pape qui m'a écrit pour remercier que Saint-Père était très impressionné par les beautés de votre œuvre, tout simplement. Il a ajouté, si vous êtes à passage à Rome, vous êtes toujours bienvenu. J'ai montré cette lettre à mon ami qui est grand spécialiste de l'art liturgique, qui venait souvent à Rome travailler dans la bibliothèque, m'a dit on va ensemble. Donc on est allé, substitut du pape nous a bien reçus, et à ce moment-là, ils m'ont présenté le maître de la cérémonie pontificale, Monseigneur Marini, qui était organisateur de tous les déplacements du pape, et c'est lui qui dirigeait toutes les liturgies pontificales, papales. Et il m'a dit, écoutez, ça c'est très bien, je voulais vous connaître, parce que bientôt il y aura une cérémonie de béatification des Padre Pio, et les capucins, les moines capucins, souhaitent que plutôt c'est lui qui a donné l'idée, mais commanditaire c'était les capucins, créent quatre objets, reliquaire des Padre Pio, la croix processionnelle et deux chandeliers d'acolytes. Donc évidemment, j'ai été très très impressionné par cette proposition et j'ai tenu les promesses. Et on est allé ensemble pour les jours de béatification, ma femme et mon fils Stéphane. Voilà, on était tous les trois. On était présents, place Saint-Pierre, parce que c'était d'or. Et je voyais ces quatre objets. C'est le seul décor, c'était les quatre objets, dont mon hôtel, et Jean-Paul II. C'est vrai, il était affaibli à cette époque. Mais la cérémonie était magnifique par ses beautés, et ma femme a commencé à pleurer. Elle dit, pourquoi tu pleures? Elle m'a dit, ah! Elle m'a dit, comme je pense que toi, qui venais de loin et loin, et Saint-Père aussi,
venait de Pologne.
Voilà, on se trouvait pas, je ne veux pas comparer, mais c'est-à-dire il y a eu cette rencontre, cette manière. Voilà.
Et c'est l'idée aussi que même le système soviétique n'a pas pu tuer la foi de ceux qui avaient la foi. Et à ce propos, je voulais vous poser une question sur le fait que, en fait, vous avez fait tout cela pour l'Église catholique. Mmh. Finalement, vos travaux d'art sacré sont essentiellement adressés à l'Église catholique. Est-ce que, pour vous, qu'est-ce que ça signifie en tant qu'orthodoxe? Parce que vous êtes dans la foi orthodoxe. Vous avez gardé votre foi orthodoxe. Ou alors vous êtes plutôt devenu catholique parce que vous avez trouvé un accueil Absolument. De votre expression artistique dans cette Église catholique?
Absolument. Avec l'Église orthodoxe, j'ai eu le problème. Avec l'hiérarchie de l'Église orthodoxe, parce que, historiquement, l'Église orthodoxe, c'est l'Église autocéphale, et cette Église nationale, il défend l'intérêt de pouvoir. Toujours, c'était l'instrument de pouvoir. Et même le patriarcat qui était restauré à sa manière par Staline, c'était l'instrument de Staline, même s'il y a eu des patriarches.
Et même aujourd'hui, d'une certaine façon, l'orthodoxie russe, elle est quand même très liée au pouvoir de Poutine.
Complètement. Donc pour ça, j'ai eu un problème avec l'Église orthodoxe. Je ne pouvais pas accepter ça. Et j'ai trouvé dans la foi catholique cette universalité. C'est-à-dire, vous êtes géorgien, arménien ou turc, si vous avez la foi catholique, aucune importance, vous êtes un catholique. C'est ce qui m'a séduit plus, si vous voulez, cette idée d'universalité.
Et est-ce que répondriez-vous à des gens qui pourraient vous dire, et qui reprochent d'ailleurs à l'Église catholique, précisément le développement de cet art qui est quand même un art précieux, qui demande effectivement de travailler des matériaux précieux, c'est l'or, c'est l'argent, c'est les pierreries, et qui disent, alors j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, que l'Église devrait être l'Église des pauvres et que cette débauche d'art et de pierres précieuses est contradictoire avec le message du Christ. Alors que leur répondez-vous, Guji, vous qui travaillez là?
Le discours est complètement hypocrite. Vous savez qui dit ça? Les gens qui n'ont jamais donné un centime eux-mêmes à l'Église. C'est une hypocrisie totale. À ce moment-là, s'il faut vraiment... Il faut tout sortir, il faut ouvrir tous les trésors des cathédrales, de l'Église, il faut vendre et de distribuer. Et qu'est-ce qui va rester? Tout ce que je crée, j'espère que ça va servir encore des années et des années, comme tout ce qu'on a hérité, tout ce fabuleux patrimoine qui existe en France, c'est écrit par qui? Créé par qui? Par peuple, parce que chacun a participé. Voilà. Et sinon, il y aura des déserts totaux. Donc, j'ai pu répondre de cette manière de tous ces gens par hypocrisie. Ils ont cet argument.
Oui, et puis au-delà, est-ce que c'est pas aussi, de ce que j'ai compris de votre art et de ce que vous en dites, est-ce que ce n'est pas aussi pour vous l'idée que, précisément, c'est à Dieu qu'il faut aussi faire le cadeau des plus belles choses, et que par la création d'œuvres d'art, par la création de beauté, d'aider ceux qui, après vous, bien longtemps après vous, viendront dans les églises pour admirer, comme vous l'avez fait d'ailleurs quand vous êtes venu en France, pour admirer ces beautés, les aider par cette contemplation de la beauté, dans un mouvement quasi socratique en réalité, de remonter de cette beauté des objets vers le bien et la vérité d'une certaine façon.
Par mon expérience, je vais vous dire, depuis, ça fait presque 30 ans quand j'ai commencé toutes ces créations pour l'art liturgique, j'ai reçu de lettres, peut-être des centaines de lettres, des gens inconnus pour moi, qui m'ont remercié. Ils me cherchent soit par l'adresse, soit par l'email, on reçoit des courriers. Et récemment, j'ai fait les conférences, vidéoconférences de mes œuvres, dans la ville de Provence, en France, et après cette conférence, un homme, nettement plus jeune que moi, m'a approché, m'a dit, vous savez, depuis que j'ai vu votre réalisation dans l'abbaye des Tournus, j'ai trouvé ma foi. Donc c'est assez significatif. Donc il était touché par la beauté. Mais il était baptisé, mais évidemment, mais il n'était pas pratiquant du tout. Voilà, il était éloigné, si vous voulez, de l'Église. Il est depuis, voilà, je suis devenu catholique, parce que ça m'a tellement touché. Mais j'ai eu beaucoup de témoignages de ces gens.
Oui. Et donc, vous pensez, avec Dostoïevski, non pas que la beauté sauvera le monde, mais que, d'une certaine façon, elle l'a déjà maintes fois sauvé.
Oh oui, vous citez un grand écrivain russe, n'est-ce pas? Oui, c'est ce seul espoir, en fait. Et j'espère encore, si Dieu me permet, d'avoir une capacité physique, de travailler et faire maximum ce que je pouvais faire.
Un très grand merci à vous, Guji, pour ce moment partagé, pour cette initiation vraiment aux arcanes de votre vie en réalité qui a porté votre art. Et j'espère que ça a donné envie aux auditeurs, l'envie non seulement de découvrir votre œuvre, mais aussi d'aller visiter ou de revisiter Chartres, Albi, Tournus, enfin toutes ces grandes cathédrales, toutes ces richesses inouïes pour aller à la rencontre de la beauté tout simplement. Et alors, que ce soit les églises, vous avez laissé une trace ou dans laquelle vos ancêtres en art ont laissé des traces et la trace en réalité de leur ferveur créative. Je voudrais signaler à nos auditeurs que pour préparer cette émission, je me suis appuyée sur deux ouvrages magnifiques qui vous sont consacrés, dans lesquels on trouve des très beaux textes sur vous, des entretiens, mais aussi de très très belles photographies. Je tiens à le signaler, vous avez un excellent photographe en fait, qui a très très bien photographié vos œuvres. Donc l'un de ces ouvrages s'intitule « Guji, des mains d'or et de feu », entretien avec Bernard Berthaud, Emmanuel Anne, Renaud Langlois, aux éditions Thalia, et un ouvrage de Marc Hérissé, intitulé tout simplement « Guji », aux éditions de L'Amateur. C'était « Les Racines du Ciel », une émission de Lélie Anvar. Vous pouvez podcaster cette émission pendant un an ou bien la réécouter pendant 1000 jours sur le site de France Culture à la page des Racines du Ciel. Dans quelques instants, le journal de la rédaction de France Culture. Très bon dimanche à tous.